C'est toi qui as tout organisé. Nous, on n'a fait que répondre aux mails. Donc, bon après-midi tout le monde. Merci d'être là. Donc, je constate une présence massive de nos étudiants de L3, ce dont je me réjouis. Et je remercie vos enseignants qui vous ont libérés. Et j'aurais préféré que vous soyez là le matin. Je ne veux pas dire plus tôt que de l'après-midi. Ce qu'on va vous raconter l'après-midi est tout aussi intéressant. Mais vous aurez plus l'occasion d'entendre ce que vous allez entendre l'après-midi que l'épistémologie, l'histoire des neurosciences. Mais bon, vous êtes encore en début de votre formation, vous aurez d'autres occasions de venir ici. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'espace Mendes France, c'est une tradition de faire des séminaires dits grand public, dits de vulgarisation, mais ce sont vos enseignants, entre autres, qui les invitent, et c'est en général extrêmement intéressant, y compris pour votre formation, en dehors de l'aspect culture générale. Donc, je vais commencer par présenter les collègues qui vont parler ce matin. Donc Martin Jurfa, ici présent à ma gauche, qui est depuis 2003 directeur du Centre de recherche sur la cognition animale dépendant de l'Université Paul Sabatier de Toulouse et du CNRS. Il est membre de l'Académie allemande des sciences. Il a été nommé membre senior de l'Institut universitaire de France, président du comité national de CNRS, neurosciences jusqu'à 2012. Médaille d'argent du CNRS, mais attends, je ne savais pas tout ça. Hein. C'est impressionnant et je commence à être un peu jaloux. Je ne suis pas sûr que je t'aurais invité si je savais tout ça. Donc, il est professeur invité de plusieurs universités étrangères. Donc, argentin de nationalité, formation en Allemagne, chercheur en France. Voilà un excellent autre exemple de la mondialisation dans le bon sens du terme. Donc ces recherches s'intéressent à l'apprentissage, à la mémoire chez les insectes, et vous allez voir que c'est un monde à part entier, c'est un continent dans la recherche en neurosciences, à différents niveaux d'organisation, donc du comportement jusqu'aux molécules. Donc c'est un type d'enseignement que nous, on ne donne pas à Poitiers, et donc c'est vraiment une chance de t'avoir avec nous, avec des approches qui relèvent de la neuroéthologie, de la psychologie expérimentale, jusqu'à la biologie moléculaire. Donc à ma droite, Michel Isengrini, certains d'entre vous le connaissent, peut-être, je dis peut-être parce qu'il est directeur de l'unité CNRS à Poitiers, qui est le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est extrêmement connu, le CERCA. Mais peut-être pas, vous le connaissez peut-être pas en tant que professeur, parce qu'il est professeur à l'université François Rabelais de Tours. Donc, un exemple du rapprochement des deux universités, de Poitiers et de Tours, et de ce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble, notamment, j'en profite, le projet DHU Neurosciences, donc département hospitalier de l'université en neurosciences. Donc, Michel est responsable de l'équipe vieillissement et mémoire, directeur de l'école doctorale sciences, santé et technologie, et ancien ou toujours vice-président chargé de la recherche, ancien vice-président chargé de la recherche de l'Université de Tours, donc auteur bien entendu de plusieurs publications dans le domaine du vieillissement sur la mémoire et ce qu'on appelle la métamémoire. Enfin, vous entendrez Rémi Guilvin, qui est à nouveau arrivé à... Ouais, ben voilà, j'étais en train de faire ton introduction. Rémi Guilvin, qui est PUPH, donc médecin, imageur radiologue, et qui va vous parler des progrès de l'imagerie, des limites et de l'intérêt des techniques d'imagerie d'exploration fonctionnelle chez l'homme. Donc, Mohamed Jaber, vous ne m'avez pas encore eu comme prof, et vous aurez la chance de m'avoir comme prof en master, parce que je n'enseigne plus en licence. On verra comment ça va se faire. Voilà. Donc, je vais quand même vous lire une petite introduction, bien que je suis bien conscient qu'on n'a pas le temps. Je ne vends pas de livre, mais j'ai participé à la rédaction de ce livre, qui est « La priorité sur le cerveau ». Je ne le vends pas parce que j'ai cédé mes droits à la Fédération de recherche sur le cerveau, qui est une association. Donc, je vous en parle d'autant plus facilement. Et donc, c'est un livre blanc des neurosciences, à l'époque qu'on a rédigé pour faire ce qu'on appelle honteusement du lobbying politique envers nos ministres. Et c'est un livre blanc qui a été remis à l'ancien ministre de la Recherche et de la Technologie, qui est Valérie Pécresse, et qui lui a été remis au Collège de France. Donc je ne peux pas me freiner de vous lire la petite intro qu'on a écrite, parce qu'elle est très ancrée dans la thématique d'aujourd'hui. Donc, l'homme pourra-t-il un jour comprendre et connaître le fonctionnement de son cerveau? En effet, la singularité du cerveau est elle-même son extrême complexité. Le cerveau contient quelques 100 milliards de neurones et 10 fois plus d'une autre population cellulaire, les cellules gliales. Et pour accroître cette complexité, les neurones communiquent entre eux en permanence par des contacts synaptiques qu'on estime à quelques dizaines, voire centaines de milliers par neurone. Ainsi, le nombre total de connexions neuronales de notre système nerveux est d'environ 10 à la puissance 15. Et lorsqu'on sait que la vitesse de propagation de l'influx nerveux atteint plus de 100 mètres par seconde, on se demande comment un organe aussi complexe peut être à l'origine d'un comportement adapté, et on comprend pourquoi le moindre grain de sable est à l'origine d'une pathologie. Donc neurologues, psychiatres, neurobiologistes tentent à leur manière d'appréhender le fonctionnement du cerveau, organe impliqué dans l'ensemble des fonctions de notre vie quotidienne. Ce qui nous semble évident aujourd'hui, on a vu ce matin que ça ne l'était pas du tout il y a encore quelques années. C'est notre cerveau qui nous permet de communiquer, de calculer, de développer le langage, etc. C'est aussi lui qui nous permet de nous adapter, d'interagir avec l'environnement au travers de capteurs d'informations multiples que sont par exemple le système visuel, le système auditif et en commandant nos systèmes effecteurs. C'est toujours notre cerveau qui nous permet de garder en mémoire nos joies et nos peines et qui nous conduit par l'apprentissage à notre adaptation sociale. C'est donc en partant d'une meilleure connaissance de l'organisation et du fonctionnement de notre cerveau, grâce à l'analyse de grands réseaux, dont on a parlé ce matin, les connectiques, de grands réseaux de neurones, que nous comprendrons mieux nos comportements. Toutefois, au regard de la complexité cérébrale, il convient aussi de mieux disséquer les briques qui le constituent. Ainsi, de nombreux laboratoires cherchent par exemple à identifier les mécanismes par lesquels les neurones communiquent entre eux. Les chercheurs tentent aussi d'identifier les molécules impliquées dans le modelage physique de notre cerveau, ce qui lui permet d'évoluer et de s'adapter par ce qui est reconnu comme une forme de plasticité cérébrale. Une meilleure connaissance de notre cerveau passe par de nouveaux développements méthodologiques, en particulier celui de nouveaux modèles, on a parlé de modèles encore ce matin, destinés à simplifier l'analyse. Ainsi, nous ne pouvons pas nous passer d'une approche utilisant des modèles qualifiés de simples, dans une démarche dont la connotation est quelque peu réductionniste, de fait. Cette démarche est néanmoins nécessaire pour aborder la complexité, comme dans le cas de culture de neurones, grâce auxquelles on peut analyser le rôle des différentes molécules impliquées toujours dans le fonctionnement du cerveau. Toutefois, ces modèles cellulaires ne permettent pas d'appréhender la complexité du fonctionnement cérébral dans une dimension qui est plus intégrative, d'où l'intérêt des modèles expérimentaux animaux dont on a encore parlé ce matin. Vous voyez, ça se suit finalement, tout ça. C'est la combinaison de ces différentes approches expérimentales qui a ainsi permis de montrer, contrairement au dogme établi, que des cellules souches donnent naissance en permanence à de nouveaux neurones dans des régions spécifiques de cerveau adulte, dogme qui ne date que depuis à peine une quinzaine d'années. Ce type de découverte ajoute une dimension nouvelle à la compréhension de l'organisation du cerveau. Il ouvre des potentialités thérapeutiques inespérées et nous sommes peut-être, je dis bien peut-être, et j'insiste sur à l'aube, peut-être à l'aube de pouvoir reconstruire notre cerveau suite à des dégénérescences ou à des lésions. Donc à côté des approches moléculaires qui reposent aussi sur les progrès immenses de la génétique et de nouveaux développements en imagerie cérébrale, dont on va parler cet après-midi, combinés à des analyses mathématiques et théoriques sur les réseaux cellulaires, tout ceci va nous permettre d'identifier et d'analyser les circuits du neurone impliqués dans nos comportements. Alors ces développements particuliers dans le domaine de l'imagerie médicale, que notre collègue Rémi Guivin va en parler, sont à la base de l'identification de structures cérébrales concernées par certaines maladies neurologiques et psychiatriques. La combinaison des différentes approches d'imagerie va donner naissance à l'imagerie multidimensionnelle. Il s'agit là d'un vrai challenge, mieux appréhender in vivo, chez l'homme tout comme chez l'animal, et éveiller non anesthésié le fonctionnement normal du cerveau pour prendre en charge les pathologies. N'inquiétez pas, on arrive à la fin. En parlant de pathologie, une amélioration de la prise en charge des malades ne pourra voir le jour qu'en privilégiant la recherche sur les causes de ces maladies. Et c'est en partant des causes et de la physiopathologie qu'il est possible d'identifier des cibles thérapeutiques nouvelles. L'étape ultérieure étant de développer de nouveaux médicaments, des techniques et des moyens pour réaliser des essais thérapeutiques. Ces avancées thérapeutiques potentielles ne verront le jour que grâce à une bonne organisation des transferts des informations fournis par la recherche fondamentale vers la recherche clinique réalisée au lit du malade. C'est ce qu'on appelle, un terme très galvaudé qu'on utilise depuis quelques années, la recherche translationnelle, qu'il convient de développer dans des structures nouvelles associant des laboratoires de recherche en neurobiologie et des services hospitaliers en neurologie et en psychiatrie. Alors, in fine, nous sommes tous chercheurs de tous les bords, convaincu que les progrès thérapeutiques passent par le développement et la promotion de la recherche. Et cet objectif ne saurait être atteint sans des moyens dédiés. On parle d'augmentation des impôts, on est quand même payé par ça. En Europe, 4,1 milliards d'euros sont investis chaque année dans la recherche sur le cerveau, dont seulement 850 millions proviennent du secteur public. C'est 20 fois moins proportionnellement que la recherche sur le cancer, alors qu'il faut être tout de même conscient que la population vieillit, que l'espérance de vie augmente et que les questions qui vont être liées au vieillissement vont être des questions sociétales à laquelle il va falloir répondre, à savoir quels sont les choix et les priorités que notre société se donne. Voilà, j'ai fini pour ma petite introduction. On va passer à la recherche, parce que ça, c'était un peu de politique. On va passer tout de même à la recherche. Je vais donner la parole à Martin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez derrière, si je parle comme ça. Oui ? Oui ? Ah, pardon. Bon. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Mohamed Javert pour l'invitation et Anne Bonnefoy pour avoir organisé mon déplacement. C'est très gentil. C'est un grand plaisir d'être ici et de faire cette présentation pour vous. Ce que je voudrais faire, c'est vous raconter sommairement, en quelque sorte, un spectre de recherche assez vaste qu'on conduit sur un modèle particulier animal, puisqu'on va parler ici de modèles animaux, qui est celui de ce petit insecte que vous voyez ici, avec la vocation, certes ambitieuse, de comprendre certains principes généraux liés à l'apprentissage, à la mémoire, voire de la cognition. Et vous allez voir de quoi je parle en disant ceci. Donc, pourquoi s'intéresser à une abeille si on est chercheur et qu'on a comme vocation de comprendre les phénomènes de l'apprentissage, de la mémoire et de la cognition? Donc, tout d'abord, parce qu'on va dire que dans un contexte naturel, dans la nature, ces animaux font preuve de capacités d'apprentissage et de mémoire remarquables appliquées à leurs activités naturelles. Notamment, donc, ce que vous voyez ici, c'est les abeilles. Et les abeilles, c'est bien connu depuis Aristote, sont ce qu'on appelle des pollinisateurs constants. Ça veut dire que les abeilles ne vont pas d'une espèce florale à l'autre dans un même vol de butinage, mais elles restent toujours fidèles à la même espèce tant que celle-ci sera capable de leur offrir de la récompense en nectar, carbohydrates ou pollen, protéines. Donc, elles travaillent à la chaîne, toujours la même espèce, tant que celle-ci sera profitable, d'où le nom pollinisateur constant. Cette constance florale, on le sait aujourd'hui, elle n'est pas due au hasard, mais elle est basée justement sur la capacité à apprendre et à mémoriser les signaux floraux qui caractérisent l'espèce exploitée. Donc, ces abeilles apprennent et mémorisent la couleur de l'espèce qu'elles exploitent, l'odeur ou les odeurs, les formes, la position dans l'espace de façon à revenir constamment au même endroit, et ainsi de suite. Donc, cette constance repose sur une capacité naturelle à prendre et mémoriser dans le cadre du butinage des fleurs qui, comme vous le savez, est crucial pour la survie individuelle et de la colonie. L'autre fait fondamental pour le chercheur qui s'intéresse à ces capacités, c'est que ces petits animaux sont expérimentalement accessibles. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez les entraîner, comme on entraîne un chien ou un autre animal, à venir en volant dans le laboratoire, à rentrer par une fenêtre, à aller travailler dans des dispositifs que vous aurez conçus pour poser des questions, ou vous lui, par exemple, demanderez « Est-ce que tu vois ces couleurs comme différentes ? Est-ce que tu discrimines ces odeurs ? Est-ce que tu es capable de mémoriser cette couleur et combien dure ta mémoire ?» Et ainsi de suite. Donc, c'est possible de faire toute une gamme d'expériences variées. Et l'abeille sera extrêmement coopérative, ça veut dire qu'elle jouera le jeu constamment. Elle sera capable de venir une centaine de fois dans la journée entre la ruche et le laboratoire pour travailler pour vous et répondre de cette façon à vos questions posées dans le dispositif. Coopérative, évidemment, dans la mesure où vous donnerez toujours la gouttelette de solution sucrée qui sera l'équivalent de la récompense de nectar qu'elle cherche. Donc, l'autre élément intéressant, c'est qu'au cours des années, vous allez voir quelques-uns aujourd'hui, on a développé toute une série de méthodes invasives pour aller dans le cerveau et explorer l'activité neurale, donc de ce micro-cerveau qui fait à peine 1 mm³. Donc, vous allez voir ceci aujourd'hui. Et donc, par ailleurs, c'est un des organismes pour lesquels on a le génome entièrement codé ou séquencé, pardon, ce qui permet donc ou a ouvert toute une voie de recherche sur la partie moléculaire de la mémoire qui est vraiment en pleine explosion à l'heure actuelle. Donc, un autre avantage fondamental, c'est que si on essaye de repérer les circuits responsables de ces capacités, on pourrait spéculer, ce n'est qu'une spéculation évidemment, qu'il serait plus simple, s'ils existent, de les trouver dans un petit cerveau qui n'a que 950 000 neurones, c'est la quantité de neurones que vous trouvez dans un cerveau d'abeille, 1 mm³, que d'aller chercher ces réseaux, peut-être avec succès, qui le sait, dans un cerveau comme le nôtre qui a 100 milliards de neurones. Donc, c'est un pari, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Donc, comprendre le potentiel de ce mini-cerveau, de quoi est-il capable ? Et surtout, si on voit de quoi est-il capable, demander comment des telles performances sont assurées par l'organisation de ce cerveau. Ça, c'est un véritable cerveau reconstruit en 3D par microscopie confocale, qui donc vous permettrait de savoir quelle est l'architecture neuronale qui permet de faire ceci ou cela. Donc, est-ce qu'on peut identifier des circuits responsables de l'apprentissage et de la mémoire là-dedans ? Et comment sont-ils organisés ? C'est ça la grande question. Et par ailleurs, donc, si on essaye de quitter le monde simpliste, en quelque sorte, dont on parlait ce matin, des apprentissages élémentaires, d'associer simplement un stimulus, par exemple une lumière ou une odeur, avec une conséquence, par exemple une récompense, une punition, c'est-à-dire des associations 1-1 très simples qu'on peut espérer chez des insectes comme chez d'autres animaux appelés simples. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ceci ? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être de traitement que chez un singe ou un vertébré, on n'hésiterait pas à appeler haut niveau, des traitements de haut niveau ? Et si oui, comment sont-ils organisés dans ce petit cerveau ? Voilà quelques questions pour aujourd'hui. La première chose qu'il faut dire, c'est que dans ce système, on dispose de protocoles de conditionnement contrôlés dans le laboratoire qui permettent de répondre à toute une gamme de questions sur l'apprentissage et la mémoire. C'est des protocoles simples, certes, puisqu'ils ont vocation à tester la capacité à prendre des associations, comme je dis, élémentaires, par exemple, une odeur associée à du sucre, une autre odeur associée à l'absence de sucre, etc., mais qui ont l'avantage pratique d'avoir l'animal immobilisé et qui, néanmoins, malgré l'immobilisation, la contrainte expérimentale, apprend et mémorise. L'immobilisation sera cruciale, vous allez le voir, parce que vous pourrez par la suite aller dans le cerveau de cet animal pour savoir comment ceci se passe. Donc, voici un protocole typique qu'on emploie dans le laboratoire, un parmi plusieurs. J'ai choisi celui-là parce que bon, il est assez typique, qui est le protocole de conditionnement olfactif du réflexe d'extension du proboscis. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Le proboscis, tout d'abord, il faut savoir que c'est la langue de l'abeille. Donc, les abeilles ont effectivement une langue et il y a un réflexe inné, non appris, qui a toujours lieu chez une abeille affamée. Quand vous touchez les antennes où il y a des récepteurs gustatifs, olfactifs aussi, mais aussi gustatifs, avec une gouttelette de solution sucrée, qu'est-ce qui se passe ? Pac, l'abeille tire la langue. C'est un réflexe inné, non appris. C'est normal parce que ça veut dire qu'elle a touché quelque part la présence de nectar et qu'elle cherche avec sa langue où se trouve ce nectar. C'est un réflexe non appris. Donc, ce qu'on fait dans ce protocole, c'est l'expérience du chien de Pavlov, mais ramené à une abeille. Ce qu'on va faire ici, c'est on va présenter non pas un son de cloche, comme faisait Pavlov, mais une odeur neutre qui ne déclenche aucune réaction. Et juste après, on ne donne pas logiquement de la viande, comme Pavlov, mais on donne de la solution sucrée, qui est l'équivalent de la récompense alimentaire. En faisant ceci, on espère créer une nouvelle association pavlovienne entre odeur et sucre. Si ceci a lieu, donc on devrait espérer que par la suite, l'animal étire le proboscis à l'odeur toute seule, puisqu'il aurait appris que odeur veut dire sucre. Vous voyez le dispositif, ce que vous voyez ici, c'est un tube de contention. L'abeille est fixée là-dedans, il y a juste la tête qui sort, vous voyez. Ça, c'est un dispositif contrôlé par ordinateur qui permet la stimulation olfactive, envoyer un pulse d'odeur à caractéristiques temporelles contrôlées. Et par la suite, donc, on va donner la solution sucrée, c'est le même dispositif, l'abeille ici en contention, par exemple avec un cure-dent imbibé en solution sucrée qui va aller toucher les antennes pour faire sentir la présence de sucre. Donc ceci a lieu de la façon suivante. On va voir si ceci marche. Donc ici, ce que vous voyez dans cette animation, donc c'est l'abeille immobilisée. Vous voyez, la seule chose qu'elle peut bouger, c'est les antennes et les pièces buccales. Le carré rouge indique le moment où arrive l'odeur. Pas de réaction particulière puisqu'elle ne le connaît pas. Cure-dent avec du sucre, vous déclenchez l'extension du proboscis. Vous voyez qu'elle insiste, elle est motivée. C'est vraiment une récompense appétitive. Et par la suite, donc, ce qu'on va faire, c'est prouver que cet apprentissage a eu lieu. Et donc, pour faire ceci, ce que vous faites, c'est vous donner l'odeur en absence de sucre. Et parce qu'elle a appris la nouvelle association, tac, en absence de sucre, elle montre donc par cette réponse conditionnée la présence de mémoire, la présence d'apprentissage. C'est une association simple entre odeur et sucre. Donc, ça se passe très, très, très rapidement, puisque si vous voyez ici le pourcentage d'abeilles qui étirent le proboscis, on a vu un essai dans le film, une fois odeur sucre. Il suffit de le faire, par exemple, 3 fois pour avoir 90% des abeilles déjà ayant appris la situation expérimentale, pour une odeur que j'appellerai A, récompensée, d'où le signe plus. Si par la suite, je les capture dans une cagette pour les avoir, savoir quelles sont mes abeilles et ne pas les perdre dans la nature, et je les laisse dans les cagettes, par exemple, pendant 2 semaines, qui est la vie utile d'une abeille, et que je les remets dans le dispositif, et que je leur demande quelle a été l'odeur mémorisée 2 semaines avant, A, B ou C, typiquement, les réponses que vous obtenez sont celles-ci. Donc c'est extrêmement robuste, extrêmement solide, ça peut durer toute la vie. Et je n'ai pas le temps de vous parler de ceci aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les molécules qui interviennent dans la formation de ces mémoires sont connues et montrent des homologies, en tout cas des similarités absolument remarquables par rapport à celles qui interviennent au niveau moléculaire chez l'homme et chez les vertébrés en général. Donc on est fait des mêmes briques, en quelque sorte. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire ceci. C'est-à-dire que donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuticule, la surface du corps d'un insecte, n'est pas innervée. C'est une armure. Donc on peut découper ceci et l'animal, entre guillemets, n'a pas mal parce que c'est comme si vous ôtiez une casquette. Il montrera avec le cerveau exposé, comme ici, exactement ce que vous avez vu dans le film sans aucun souci. Il n'y a pas besoin, donc, puisqu'il n'y a pas de terminaison nerveuse dans cette carapace qui recouvre l'intérieur mou de son corps. Donc la seule chose qu'il faudra éviter, évidemment, c'est qu'exposé à l'air, le cerveau se dessèche, mais vous allez perfuser, et vous allez voir typiquement ce même type de réaction. Donc, possibilité d'aller dedans pour regarder comment ça se passe. C'est ça l'avantage, ou c'est ça le pari en tout cas. Donc, si on va dans le cerveau de l'abeille, que vous voyez ici, donc sa vue frontale, ça c'est la partie optique, la partie olfactive, etc., et qu'on rentre dedans, donc l'idée serait de retrouver quels sont les mécanismes qui sous-tendent cet apprentissage qu'on vient de voir. Donc là, on est en train d'aller en profondeur dans ce cerveau, vu toujours en vue frontale. Donc, et on a différentes régions, différents circuits. Et l'idée, c'est de pouvoir comprendre comment ça se fait. Donc où se fait l'association odeur-sucre, pour rester dans l'analyse simple dans un premier temps. Donc la première chose à demander, c'est où est le sucre dans ce cerveau? Où est le signal du sucre? Pour répondre à cette question, donc, avant que j'arrive en France, quand j'étais à Berlin, donc effectivement, un des travaux faits par un thésard, Martin Hammer, avait découvert ce neurone fabuleux que vous voyez ici, puisque si je reviens à cette image du cerveau, je vous montre ici le cerveau entier qui fait 1 mm3 et que vous voyez ici, toujours à la même échelle, et ça c'est le cerveau, j'ai ôté la partie optique qui serait de côté et de chaque côté, et pour essayer juste la partie olfactive. Et ce qu'il a découvert, c'est ce neurone géant, vous voyez, ça c'est le corps cellulaire et ça c'est les ramifications, qui vont dans toute la structure olfactive ou les structures olfactives du cerveau. Donc c'est vraiment un neurone fabuleux, puisque voilà l'avantage, vous pouvez toujours l'identifier par sa position. C'est pour ça qu'il a ce nom, VAMEMX1, ce n'est pas un nom d'un robot, mais c'est simplement ventral, parce que le corps cellulaire est ventral, unpaired, c'est un neurone impair, medial, d'où se trouve la partie cellulaire, et maxillar one, c'est-à-dire au niveau des maxilles, vous allez le trouver, c'est-à-dire une partie des pièces buccales. On peut le repérer d'une abeille à l'autre, par sa morphologie, par sa position. Et donc, ce neurone donc, a interpellé Martine et d'autres aussi, parce qu'il ne répond pas à des odeurs, et pourtant, il contacte le circuit olfactif qu'on voit ici. On va le voir mieux, ce circuit olfactif. Il faut savoir que ça, c'est les différents relais du circuit olfactif. Et comme vous voyez, il contacte ici, 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 etc. Donc, une des hypothèses, c'était que ce neurone, effectivement, pourrait être le neurone qui représentait le sucre dans le cerveau. Et effectivement, la première chose qu'on a vue, c'est que quand on touchait les antennes avec du sucre, ce neurone, pac, commençait à s'activer. Donc, effectivement, ce neurone répondait spécifiquement à du sucre. Ceci n'est pas suffisant pour dire que la représentation du sucre dans le cerveau est l'activité du neurone. Et il a fallu donc faire cette expérience qui est fabuleuse, une expérience que j'appellerais de réalité virtuelle, entre guillemets, parce que cette expérience a montré que l'activité du neurone est nécessaire et suffisante pour représenter le sucre dans le cerveau. Qu'est-ce qui a été fait? Une expérience où on a donné une odeur à l'abeille ou aux abeilles, mais au lieu de leur donner du sucre, ce qui a été fait, c'est activer artificiellement le neurone juste après, au moment où le sucre aurait dû être là. Donc, l'idée, c'était que si le neurone représente le sucre, l'abeille aurait eu odeur et signal de sucre. Conséquence, elle aurait dû apprendre l'odeur, même en absence de sucre, parce que l'activité du neurone aurait remplacé le signal du sucre. C'est ça l'idée. Donc ceci se fait en enregistrant la réponse d'un muscle appelé M17 qui contrôle la volonté, entre guillemets, d'étirer le proboscis. Et donc, ce qui est fait, c'est qu'on enregistre avant l'association et on fait l'association odeur et activation artificielle du neurone. Comment on fait ceci? On injecte du courant dans le neurone, on dépolarise le neurone et donc on l'active, comme on veut, entre guillemets. Et ensuite, on reteste la réponse à l'odeur suite à cette association artificielle. Donc, avant l'association, vous voyez qu'il n'y a aucune réponse à l'odeur, puisque logiquement, cette odeur ne veut rien dire. On a deux barres, un groupe qui a eu l'activation artificielle et un groupe qui a eu du sucre réel comme contrôle. Et vous voyez qu'après l'association, les deux groupes ont appris à répondre à l'odeur. Le groupe qui a eu sucre réel et le groupe qui n'a jamais eu du sucre, mais qui a eu l'activation artificielle du neurone. Donc, ce résultat donc, montre que l'activité de ce neurone se substitue au renforcement du sucre et que donc elle constitue le signal pour indiquer la présence de sucre dans le cerveau. Bien, on sait déjà ceci. Maintenant, il faut aller dans l'autre composante, les odeurs. On a vu le sucre, il faut voir les odeurs. Comment sont ces odeurs codées dans le cerveau de l'abeille? Là, je vais vous présenter une autre méthodologie, une autre approche développée dans notre équipe, puisqu'on vient de voir une approche électrophysiologique single cell, cellule unique conventionnelle. Là, je vais vous montrer une approche d'imagerie cellulaire développée pour enregistrer l'activité de régions cérébrales de l'abeille. Donc, ce que je vous montre, c'est déjà comment est organisé le circuit olfactif. Il y a des molécules d'odeur qui vont arriver aux antennes. Sur ces antennes, on va avoir à peu près 60 000 récepteurs olfactifs. Ceux-ci vont s'activer pour des molécules particulières et envoient le signal par un nerf, dit le nerf antennaire, et ça va arriver au cerveau dans une première région appelée le lobe antennaire. Ce lobe antennaire donc, a une sensation de déjà-vu pour les vertébristes, car il est fait de glomérules, comme le bulbe olfactif. Et l'architecture est très ressemblante, vous allez le voir par la suite. De là, le signal est traité et envoyé vers d'autres structures appelées cornes latérales, parce qu'on dirait l'équivalent des cellules mitrales, en quelque sorte, et vers des grands centres qui se trouvent ici, appelés les corps pédonculés, au corps en champignon, par leur forme, qui sont des centres déjà réputés et connus pour stocker des mémoires olfactives. Donc, si je vous présente juste une moitié de l'hémisphère olfactif, disons celle-là, hein, ce que vous verriez en reconstruction confocale serait quelque chose comme ça. Ça, c'est la première structure, c'est-à-dire on arriverait de l'antenne ici, on traite les odeurs dans cette première structure, le lobe antennaire, ici. Ensuite, on prend différents tracts pour l'envoyer soit vers la corne latérale, ici, ou soit sur, ici, un des corps pédonculés que vous voyez là. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous raconter des expériences qui se centrent à ce niveau-là. Donc, le lobe antennaire, pour regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour répondre à la question comment sont codées les odeurs. Pour ceci, je vous montre ce lobe antennaire. Je vous disais qu'il est fait de glomérules. Vous les voyez ici, c'est les sous-unités qui intègrent cette structure. Donc, il y a à peu près 166 glomérules par lobe antennaire. C'est pratique parce que comme il y en a peu, on a pu faire un atlas, une cartographie standardisée qui est disponible sur le web. Et donc, on peut aller reconnaître les signaux, les structures très facilement. Et donc, ensuite, on sait aussi que, comme je vous disais, ces glomérules sont aussi, non pas des petites balles qui se trouvent dans le cerveau, mais logiquement, comme les glomérules du bulbe olfactif, des points d'interaction synaptique entre différentes populations de neurones. Notamment, si je vous fais un schéma de ceci, hein, simplifié, et que je vous dis, voyons maintenant, vous voyez, j'ai juste dessiné les glomérules périphériques pour simplifier. Donc, on voit ce que c'est un glomérule. Par exemple, on imagine qu'on a un neurone ici en bleu, quelque part à l'antenne, qui répond à une molécule particulière, qui arrive ici avec son information, qui va contacter des neurones ici en jaune, par exemple, qui vont faire des connexions latérales entre plusieurs ou quelques-uns des glomérules, en rouge, par exemple. C'est des neurones GABAergiques, donc, qui vont faire donc, des phénomènes d'inhibition, ce qui va faire ressaillir le signal olfactif. Et par la suite, le signal est pris par ce neurone, par exemple, en vert, neurone de projection ou équivalent, entre guillemets, des cellules vitrales, tout ceci avec les grandes distances évolutives logiques qui existent, mais c'est une architecture de base qui montre quelques similarités, vous voyez. Et donc, c'est ça un glomérule. Donc, comment on étudie ça dans le laboratoire? Comme je disais, on fait de l'imagerie cérébrale de ce lobe antennaire lors de stimulation olfactive chez une abeille vivante. Donc, l'abeille est toujours ici dans un petit tube, comme vous voyez, c'est le même petit tube du conditionnement, Le cerveau est exposé, elle bouge les antennes librement, etc. On a placé sur le cerveau une cuve pour perfuser et que ce cerveau ne se dessèche pas. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est utiliser des sondes calciques, c'est le principe de l'imagerie calcique, c'est-à-dire des sondes qu'on va faire pénétrer soit dans des groupes de neurones, soit dans une structure particulière, hein, pour étudier donc, l'activité neuronale. Le principe de ces sondes, pour simplifier de la façon la plus simple possible, c'est que ces sondes pénètrent dans les neurones, et quand il y a activité neuronale et donc augmentation du calcium intracellulaire, donc ce calcium va s'unir à ces sondes, et en faisant ceci, ça produit une lumière de fluorescente qui peut être donc détectée, par exemple, si l'on place sur cette préparation ici une caméra CCD particulièrement sensible aux variations minimales de fluorescence qu'on pourrait avoir. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on voit la caméra et qu'on a les signaux sur l'ordinateur ? Ben, par exemple, on peut voir ceci. Donc, on voit les deux lobes antennaires, les glomérules, hein, cartographiés avec leur numéro, on peut les reconnaître. Ici, on vient d'une antenne, ici, on vient de l'autre. Et on va enregistrer donc l'activation quand les antennes sont stimulées avec des odeurs, puisque la baie est vivante et bouge librement ses antennes. Donc, ce qu'on va voir, voici le premier résultat. C'était le travail d'un autre thésard, Yasdan Yorges, et puis aussi de Nina Dysik, plus récemment aussi. Et ce qu'on a pu comprendre, c'est que chaque odeur est codée sous forme d'un patron spatial spécifique d'activation glomérulaire. C'est-à-dire qu'à chaque odeur, correspond un patron d'activation de glomérules. Par exemple, ici, vous avez trois molécules différentes. On pourra avoir éventuellement ce glomérule actif ici, ici et là. Mais le patron, à la fin, est unique pour chaque odeur. Donc, évidemment, l'échelle de couleur représente activité maximale, activité minimale. Hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est clair. Pour voir ceci en temps réel, si vous imaginez que vous avez votre caméra située sur ce lobe antennaire, ce que vous verriez dans ces enregistrements, c'est ça. Donc, ça, c'est des enregistrements en temps réel. Donc ici, vous allez voir une ligne rouge, c'est le moment où l'odeur arrive. Et quand cette odeur arrive, vous voyez, pac, quatre glomérules qui s'activent pour cette odeur. Si maintenant je propose une autre molécule, beaucoup plus simple, pas un mélange, mais cette fois-ci ceci, ce que vous voyez ici, vous voyez, c'est trois autres glomérules qui s'activent. Comment je sais que c'est trois autres ? Rappelez-vous qu'on a la possibilité d'appliquer notre cartographie d'Atlas sur les signaux, faire des corrections, des analyses et savoir quel glomérule répond avec quelle dynamique temporelle, etc. Je ne rentrerai pas là-dessus. Mais la question est, bon, on sait comment les odeurs se codent. Qu'est-ce qui se passe quand une odeur est maintenant apprise ? Ça, c'était le codage chez une abeille naïve. Simplement, l'odeur balancée, point, c'est tout. Mais maintenant, si on donne odeur et sucre, ce codage est-il modifié ? Et si oui, comment ? C'est la question. Donc ça, c'était une autre expérience faite par un autre thésard, Till Faber. Et donc, Till s'est dit, bon, on va faire un problème très simple au niveau comportement, c'est de faire ce qu'on appelle un conditionnement différentiel, apprendre à distinguer deux odeurs A et B, une récompensée, A+, et l'autre non récompensée. Très simple, problème élémentaire toujours. Et vous voyez que ceci est vite appris par les abeilles, ça c'est la réponse d'un groupe d'abeilles. Et vous voyez que, par exemple, elles apprennent très vite à attirer le proboscis à l'odeur A, et non pas à l'odeur B. Déjà, au niveau de deuxième aisé, c'est fait, et au troisième, c'est parfait, pratiquement. Donc, c'est très vite, et ça marche très bien. Donc, ce que Till a fait par la suite, donc, c'est d'imager les lobes antennaires pour les odeurs utilisées, A et B, avant le conditionnement. Il a fait le conditionnement, et par la suite, il a réimagé pour regarder s'il avait eu des modifications dues à l'apprentissage. Donc, ça, c'est un exemple d'un des patrons obtenus. Donc ça, ce sera l'odeur qui sera par la suite récompensée, celle la non récompensée, l'apprentissage au milieu et par la suite la modification. On voit déjà la couleur de l'histoire. On voit que c'est les mêmes glomérules, mais qui sont devenus plus intenses, donc plus actifs, mais pas de nouveaux qui se sont ajoutés. Là, on dirait que c'est le contraire, mais ce n'était pas significatif. Ce qu'on voit ici, c'est le même type d'analyse. C'est les variations de fluorescence sur la fluorescence de base. Et là, vous voyez, par exemple, deux glomérules actifs, un glomérule, un autre, avant l'apprentissage, et suite à l'apprentissage, vous voyez l'augmentation évidente d'activité pour ces deux glomérules que vous voyez ici. Donc, ce qu'on observe, c'est que suite à l'apprentissage, ce patron se modifie quantitativement. Donc, il s'intensifie, par exemple, 10 à 30 minutes après le conditionnement. Déjà ça. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Très important. C'est que si vous faites maintenant une analyse pixel par pixel, par exemple, de ces deux odeurs, celles qu'il faut distinguer, la récompensée de non et de la non récompensée. Et vous calculez un coefficient de corrélation ici et là, avant et après, ce que vous obtenez est ceci. Le coefficient de corrélation est une valeur x avant Et après l'apprentissage, il a diminué. Qu'est-ce que ceci veut dire ? C'est que les signaux sont mieux décorrélés. Les signaux sont mieux différenciés par cette modification. Et c'est justement tout l'intérêt de la tâche, puisque l'abeille doit apprendre à faire la différence entre les deux. Et c'est ce qui s'est passé par ce phénomène. Très bien, donc pour réduire, conclure cette partie-là, on voit que si on regarde ce cerveau, on pourrait dire, pour simplifier, qu'on a ici une sorte de construction de circuit qui est faite pour favoriser cet apprentissage et cette mémorisation associative. Si je vous représente dans ce cerveau, donc, qui est là, hein, amplifié, dans une moitié que la partie olfactive, regardez, je viens par là des antennes avec les récepteurs olfactifs, je viens vers les lobes antennaires qui sont faits de glomérules, on vient de les voir, hein, donc c'est ce qu'on vient de voir. De là, il y a les autres neurones qui partent vers les corps pédonculés, donc tout ça serait une partie du circuit olfactif simplifié. Et de ce côté-là, j'ai représenté que la moitié du fameux neurone 20MX1, qui est le neurone du sucre. Et quand je regarde, vous voyez comment ces deux circuits interagissent de façon à favoriser l'association à différents points, de façon distribuée, mais convergente, pour faciliter ceci. Voilà. Donc, pour finir, je ne voudrais pas qu'on reste quand même dans cette idée de dire « Oui, c'est très bien, l'abeille est un modèle intéressant, ou non, ça dépendra du goût, pour comprendre des apprentissages simples, parce qu'effectivement, j'arrive à les reproduire en laboratoire, c'est quand même fabuleux d'avoir une abeille qu'on dirait stressée, mais qui montre tous ces phénomènes, et qu'en plus, je peux aller dans le cerveau et utiliser toute une batterie de techniques pour comprendre comment ça se passe. » Très bien. Mais je ne voudrais pas rester là, parce qu'une grande critique à faire, c'est que dans ces protocoles avec des animaux immobilisés, bon, certes, ils offrent l'avantage d'un accès au système nerveux, mais ils imposent l'immobilité comme contrainte et impliquent donc forcément une perte considérable de la richesse comportementale. Logiquement, l'animal ne bouge pas. Que perdons-nous alors quand nous faisons ceci ? Et je voudrais, pour finir, vous montrer ce dernier exemple qui montre qu'est-ce qu'on perd. Donc, pour vous dire, c'est que je vais utiliser un apprentissage visuel établi par ce monsieur, Carl von Frisch, qui marquait des abeilles avec des points de couleur pour les reconnaître quand elles volaient entre laboratoires et qui avait utilisé ceci pour les entraîner, associer par exemple un carton bleu avec un petit plat avec des solutions sucrées. Très bien. Bon, ce n'est pas le but du jeu. Ici, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une tâche cognitive, dite de haut niveau, entre guillemets, qui est un apprentissage d'une règle de relation. Donc, c'est l'apprentissage de ce qu'on appelle le principe, en anglais, on dit « principle of sameness », le principe de la même chose. Principe d'équivalence. Et donc, ce protocole est utilisé en psychologie cognitive et en neurosciences cognitives pour montrer la capacité à apprendre une règle, non pas à apprendre une caractéristique physique d'un stimulus bleu, odeur telle, molécule telle, mais à apprendre une règle qui est indépendante justement de la nature physique des stimuli. Et l'idée, c'est que la règle qu'on essaye d'entraîner ici à l'animal, donc ça a été fait évidemment avec des primates, logiquement, voire des pigeons, ça n'a pas trop bien marché. Et donc c'était un peu délirant quand on s'est lassé ici pour dire on va voir si l'abeille est capable de faire ceci. La récompense a été intéressante quand même. Donc puisqu'on s'est demandé si elles étaient capables de résoudre cette règle de concept d'équivalence que je vais expliquer, puisque si elles le faisaient, ces capacités les éloigneraient clairement des apprentissages associatifs simples qu'on vient de voir. Il y aurait bien plus que ça. Donc, cette règle d'équivalence consiste à montrer à un animal ou à un sujet expérimental un stimulus, ce qu'on appelle en anglais de sample, l'échantillon, et on ne lui dit rien, on ne le récompense pas, on ne le punit pas, on lui montre juste, par exemple, ceci. Et juste après, par la suite, c'est pour ça qu'on appelle retardé, apparemment retardé, par la suite, on lui offre un choix binaire, par exemple, et là, il doit choisir, par exemple, ce qu'il vient de voir. Ce n'est là que s'il choisit ce qu'il vient de voir, qu'il aura la récompense. Mais par la suite, je vais changer tous les stimuli. Là, par la suite, ça sera plus ça, ça sera quelque chose de couleur différente, de forme différente, mais il y aura toujours une règle sous-jacente. La règle sera, choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Vous voyez pourquoi je dis qu'on s'affranchit de la nature physique des stimuli. La couleur, tout ça ne compte pas, c'est la règle, choisis ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Est-ce que l'abeille peut résoudre ce problème ? Voici l'expérience, c'est des abeilles en libre vol, je vous disais, marquées, on les reconnaît. Elles arrivent dans un labyrinthe en Y, dans le laboratoire, elles voient ceci à l'entrée, jaune. Donc, puisqu'il faut choisir ce qu'on te montre, elle doit rentrer ici et se poser sur le jaune pour avoir la gouttelette de sucre. 3 minutes après, elle revient, et surprise, il n'y a plus de jaune à l'entrée, mais il y a le bleu qui n'était pas récompensé la dernière fois. Et là, évidemment, il faut qu'elle rentre ici et se pose sur le bleu pour avoir la récompense. Tout ceci est fait évidemment avec les contrôles évidents d'avoir la récompense à droite, à gauche, de changer d'un côté pour qu'elle n'aille pas toujours du même côté. Même si l'abeille maîtrise ce problème, donc elle va au jaune quand il y a du jaune et quand elle voit au bleu quand il y a du bleu, ça ne suffit pas pour montrer ce principe de règle, entre guillemets, abstraite. Donc il faut leur présenter une situation absolument nouvelle et entre guillemets déconcertante. Donc quand elles arrivaient, on leur montrait ceci. Donc pas de couleur, donc des patrons achromatiques verticaux ou horizontaux. Deux possibilités. Soit l'abeille est absolument déconcertée et elle ne rentre pas parce qu'elle n'est pas capable d'apprendre cette règle, soit elle utilise la règle et elle rentre et elle va choisir, même si c'est la première fois de sa vie qu'elle voit ceci, vertical ici ou horizontal ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience? Donc vous voyez ici le résultat. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'entraînement, deux groupes d'abeilles, un groupe entraîné avec les couleurs, donc bleu, bleu, jaune, jaune et ainsi de suite, pendant 60 fois, donc ça c'est des blocs de 10 allers-retours, ça fait 60, ça fait une journée entière. Donc pratique encore, parce que pour entraîner un primate à ce genre de tâche, vous avez besoin de 2 à 3 mois. Donc ici, c'est une journée. La différence, c'est que le primate est immobilisé, l'abeille non. Grande différence. Donc entraînement couleur, et ici, entraînement un autre groupe en parallèle qui était entraîné avec les patterns. L'idée est que le groupe couleur verra ensuite vertical, horizontal, et le groupe pattern verra les couleurs aussi pour la première fois. Comme ça, l'expérience est faite dans les deux sens. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'apprentissage? Vous voyez que c'est pas mal, puisqu'à la fin de la journée, les deux groupes sont à presque 75% de choix correct, ce qui n'est pas mal pour une abeille quand même. Néanmoins, la question critique vient maintenant. Les abeilles entraînées avec les couleurs vont voir maintenant, pour la première fois, arriver ici, les patterns. Et quand l'échantillon est vertical à l'entrée, elles sont rentrées, elles sont allées vers le vertical. Et quand c'était horizontal, elles sont rentrées et elles sont allées vers l'horizontal. Quand l'échantillon à l'entrée, maintenant, le groupe d'abeilles qui était entraîné avec les patterns cette fois-ci et qui va voir les couleurs pour la première fois, si on leur présentait du bleu à l'entrée, elles allaient vers le bleu et si c'était du jaune, elles allaient vers le jaune. Donc, c'était une expérience intéressante car ça montrait qu'elles sont capables d'apprendre ce concept d'équivalence au-delà d'apprentissage très, très simple, stimulus, récompense, stimulus, absence de récompense. Là, on est loin de ça. Donc, et je ne le montre pas parce que je n'ai pas le temps. Dans ce même article, on montre qu'elles peuvent apprendre le principe opposé, choisir le contraire de ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu'on te montre. Donc, on a montré entre-temps d'autres règles, d'autres concepts qui sont appris et maîtrisés par ces abeilles. Donc, il y a quelques exemples ici, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Dernier point. Donc, quand on parle de ces concepts chez l'homme ou le primate, où c'est évidemment très étudié, on réfère cette capacité ou ces capacités à une région particulière du cerveau, entre autres, mais qui est très invoquée, qui est le cortex préfrontal. Vous voyez ici le dorsolatéral, le ventre latéral, l'orbital, en différentes couleurs. Et c'est une région très intéressante car elle intègre différentes régions anatomiques interconnectées avec une grande variété de régions corticales, sous-corticales, qui interviennent dans des traitements sensoriels, moteurs, émotionnels de la récompense. Donc on sait que les neurones de cette région du cortex préfrontal donc, répondent dans des problèmes d'apprentissage de concepts, ces travaux de Aaron Miller entre autres, et sont liés aussi à des phénomènes de motivation, attention et à une association étroite avec système de mémoire de renforcement. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez un cerveau d'insecte? Logiquement, on ne parlera pas de cortex préfrontal, c'est ridicule. Mais est-ce qu'il y a des circuits minimums, comme on disait ce matin, sans aller dans la surnuméraire de neurones, mais qui pourrait reproduire quelques similarités. Nous pensons que oui. Donc on a parlé notamment de ces structures, les corps en champignons, que vous voyez ici, et ces corps en champignons déjà montrent une particularité intéressante, vous voyez un en vue frontale ici, c'est que ces descentes cérébraux qui, comme la structure précédente, vont relier toute une série de entrées sensorielles, motrices, etc. Donc, par exemple, ce que vous avez ici, c'est arrivé des informations olfactives, séparément visuelles, séparément gustatives, séparément mécanosensorielles, etc. Donc, tout un monde d'afférences sensorielles différentes qui arrivent, motrices aussi. Et si vous enregistrez les neurones de sortie qui sont là, elles sont multimodales. Donc, il y a une intégration de toute cette information au niveau des neurones qui intègrent ces structures-là. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, elles sont aussi connues pour être un substrat et stockage de la mémoire. Malheureusement, on n'a pas le temps pour aller là-dedans. Et il y a aussi une association étroite avec les systèmes d'attention et le système de renforcement. Le seul terme que vous ne trouvez pas là par rapport au précédent, c'est émotionnalité, logiquement, puisqu'on ne parlera pas d'émotionnalité chez l'insecte. On n'a pas les éléments pour dire ça. Bon, ça, c'est les circuits bien connus de ces structures qui, à notre avis, permettent ces traitements. Et l'important, c'est qu'à l'heure actuelle, on travaille sur le blocage sélectif de ces structures pour déterminer si la suppression permet de faire des apprentissages simples, ce qui est pour l'instant le résultat, mais non pas des apprentissages conceptuels comme ceux que vous avez vus. C'est pour l'instant le résultat. Je finis donc. Donc, ce que j'ai essayé de faire très rapidement, c'est juste un choix, certes arbitraire, de quelques recherches. Bon, on n'a pas vu ni la partie moléculaire, ni toute une batterie de différentes techniques de multi-électrodes ou d'autres qu'on peut utiliser pour aborder ce cerveau. Bon, on a, et donc, mais quand même, j'espère que le message est clair, c'est un cerveau qui consiste d'un réseau de neurones et structures identifiables qui produit des comportements stéréotypés. Donc certes, on peut dire que c'est un animal avec des réponses innées très très claires et entre guillemets, dira-t-on dominante. Je ne suis pas sûr que ça soit dominant, en tout cas, elles existent. Mais il y a aussi des comportements plastiques qui vont au-delà de l'apprentissage simple, élémentaire, dont on a parlé tout au début. Donc, on voit des phénomènes de plasticité neurale dépendante de l'expérience qui peuvent être localisés à différents niveaux, corps pédonculé, lobes antennaires, etc., dans le cerveau de l'abeille, depuis les structures primaires jusqu'à celles d'ordre supérieur. Ces phénomènes déterminent des changements d'activité neurale qui conduisent à une décorrélation des stimuli à discriminer et à une résolution efficace des problèmes. Et aussi, il faut le dire, à des changements structurels dans le cerveau. Je ne vous l'ai pas montré, mais on peut montrer comment, quand ces mémoires se forment, le nombre de contacts synaptiques augmente et où, et donc ce qui nous indiquerait où certaines mémoires seraient stockées. Un cerveau, donc, entre guillemets, construit pour, je dis pour, c'est pas admissible parce que c'est en quelque sorte téléonomique ce que je dis, c'est finaliste, mais je veux dire par là qu'il y a quand même une construction qui facilite l'apprentissage associatif. L'apprentissage de concepts est possible, ceci est important parce que ce n'est pas toute l'histoire, il y a plus que ça. Et peut-être la conséquence de contraintes de l'organisation intrinsèque du cerveau, des circuits qui favorisent ceci, comme au niveau des corps pédonculés. Et quand je dis contraintes écologiques, je pense aussi au fait que ces animaux sont des grands navigateurs, vous savez qu'ils reviennent toujours au même point de l'espace, la ruche, qui font des routes, qui apprennent des routes, qui auraient même une carte cognitive pour faire ceci, et que c'est dans ce contexte, peut-être que cet apprentissage, par exemple, de règles spatiales, à droite de, au-dessus de, à gauche de, etc., aurait tout un sens. Voilà, ceci n'est qu'une spéculation, logiquement, ce dernier argument. Voilà, donc juste pour dire que tout ceci est possible grâce à une équipe très, très performante et dynamique que j'ai la chance de diriger. Et puisque j'ai beaucoup d'étudiants ici en vue, je profite pour vous dire que si ce petit modèle vous intéresse et vous attire, n'hésitez pas à venir faire des petits stages chez nous, vous êtes les bienvenus, parce que évidemment, on accueille toujours des gens qui ont la volonté de savoir et de faire avec nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Martin. C'était passionnant. Une question qui brûle les lèvres, je suppose, à partir du moment où on sait que l'abeille fonctionne par groupe, est-ce que cet apprentissage est transmissible ?
Donc, la question est si effectivement les abeilles sont capables de transmettre ce qu'elles apprennent individuellement. Non.
Et donc, un stimulus qui n'a pas de sens, pour parler clairement, et un sens pour une autre abeille qui n'a pas appris l'association.
Ok, donc il faut séparer, donc, qu'est-ce que ça veut dire transmettre ? Si c'est une volonté de dire, par exemple, je te dis que ceci se passe comme ça au labyrinthe, ça, c'est pas possible. Par contre, il y a une voie, une façon indirecte de le faire. Quand une abeille revient, par exemple, d'une source florale exploitée, elle porte le nectar dans le jabot, il faut dire que les abeilles ne consomment pas ce nectar pour elles, elles le ramènent à la ruche. Donc, elles ont ce nectar dans le jabot et elles sont imprégnées d'une odeur particulière. Ce qui va se passer, c'est que logiquement, ça c'est connu aussi, elles dansent, donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets le langage des abeilles, pour indiquer la distance et direction de la source alimentaire d'où elles viennent. Mais en faisant ceci, ce qui se passe, c'est que celles qui les suivent, celles qui vont donc lire la danse, vont recevoir en même temps une gouttelette de solution sucrée. La danseuse s'arrête constamment, régurgite une petite gouttelette, donne aux autres pour les stimuler à les suivre, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce qui a été prouvé, c'est que finalement, ces abeilles qui suivent dans le noir, l'abeille qui danse, et qui la détecte par les vibrations qu'elle produit, donc vont sentir l'odeur florale sur le corps de l'abeille et vont recevoir la gouttelette de sucre. Bref, ça va reproduire cette fois-ci à l'intérieur de la ruche, l'expérience florale de la nature. Et on peut montrer aisément que si on capture ces abeilles suiveuses et on les emmène au laboratoire et on leur balance l'odeur, elles vont étirer la langue ayant appris l'association par cette voie-là. C'est une façon de dire ce qui s'est passé.
Oui. Pardon, monsieur. Sur la danse des abeilles, donc, est une façon de communiquer assez élaborée, finalement, puisque je peux me souvenir que ça indique l'angle par rapport au soleil, la distance par le nom. Est-ce qu'on en sait plus à l'heure actuelle sur le déterminisme de ce comportement? Est-ce qu'il a une origine plutôt génétique, ou est-ce que, puisqu'on voit qu'il y a des possibilités d'apprentissage assez élevées chez l'abeille, est-ce que... Ce comportement naturel donc, qu'on observe, est-ce qu'on en sait plus maintenant par rapport aux...
Oui, on sait un peu plus, effectivement, parce qu'il y a eu des études des gens qui sont dans un domaine qui n'est pas le mien, qui sont des gens qui sont dans des aspects d'écologie évolutive, etc., qui ont étudié cette danse chez différentes espèces. Et on voit chez des espèces d'abeilles primitives, par exemple, qui ne construisent pas des ruches ou des colonies complexes, mais qui habitent dans des structures très simples, exposées à l'air, par exemple aux nazis, etc., on voit déjà des rudiments de danse. Et on peut suivre, donc, phylogénétiquement, comment cette danse a évolué. Et c'est vrai que la danse la plus élaborée à l'heure actuelle est celle des abeilles. Chez les bourdons que l'on voit, par exemple, les gros que l'on voit dans la nature, ils n'existent et qui ont des colonies extrêmement primitives. Hein, donc, il y a aussi quelque chose qui n'est pas une danse, mais le fait que quand on revient d'une source de nourriture positive, on va faire des mouvements assez frénétiques, sans structure en quelque sorte, mais quand même des mouvements frénétiques, courir d'un côté à l'autre, ce qui va attirer les autres pour savoir ce qui se passe. À partir de ces comportements simples en quelque chose, on a pu ritualiser ou construire cette danse évolutivement. Oui, c'est les meilleures questions, les étudiants. Allez. Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
On a vu des très belles images, comme on dit, avec l'exposé précédent. A priori, on va voir que ça dans cet exposé, à savoir, on va écouter Rémi Guilvin, qui est un jeune médecin nouvellement recruté à Poitiers, donc PUPH, en imagerie. Et c'est, je ne sais pas s'il aura l'occasion d'en parler, mais c'est aussi un chercheur qui combine les techniques d'imagerie, les techniques de prévision mathématique, afin de donner un sens fonctionnel aux images qu'on voit. Et là, par rapport à ce qu'on a écouté ce matin, vous n'étiez pas là malheureusement, on est justement, vis-à-vis de la question qui a été posée, la recherche sur l'homme, on est dans l'exploration fonctionnelle, non-invasive chez l'homme, et qui donne depuis quelques années des informations assez spectaculaires. Voilà. Merci Rémi d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup à tous de m'accueillir. Merci à Mohamed de m'avoir invité ici. Je suis en train de régler un problème technique avec mon changeur de diapo. C'est un changeur, moi.
Oui, c'est un changeur laser.
Oui, ah, ça je veux bien. Oui, si vous avez...
Gracias.
Voilà, ça y est, ça marche.
C'est bon ?
Ah bon. Oui, ça a l'air de vouloir marcher. Merci beaucoup.
D'accord.
J'aime bien être un peu loin des images, donc je vais me tenir plutôt là, si ça ne vous dérange pas. Bien, aujourd'hui, en fait, je ne vais pas vous parler seulement, vous montrer seulement des images. On va essayer d'aborder ensemble l'approche du cerveau par l'imagerie telle qu'on peut la penser, la conceptualiser aujourd'hui. On est en train de passer, de vivre une révolution épistémologique, car jusqu'à présent, tous les médecins, et même encore maintenant, sont formés à l'école de l'anatomie, de la tradition anatomiste. Je rappelle qu'anatomie en latin, ça veut dire disséquer. J'en ai déjà entendu le mot tout à l'heure. Il n'est pas anodin de faire le lien. Et aujourd'hui, on tente à approcher le cerveau de façon à la fois plus fonctionnelle et dynamique, les deux étant étroitement intriqués. Et réellement, le cerveau aujourd'hui est pensé comme un système vraiment dynamique en interaction avec la pathologie. On prendra ici le paradigme des tumeurs. Vous verrez qu'il est très riche pour illustrer le propos. Cette dynamique fonctionnelle est évidemment sous-tendue par le métabolisme et le facteur temps, qui constitue la quatrième dimension de l'étude du cerveau, est véritablement l'enjeu des prochaines années pour notamment pour les médecins en général et pour les radiologues en particulier. Les radiologues, de par leur tradition, de par leur éducation, ont tendance à faire une corrélation à l'instantané entre les images et les informations qu'ils retirent d'un examen et la pathologie qu'ils analysent, sans encore suffisamment intégrer le facteur temps, c'est-à-dire la dynamique. Ça nous ramène évidemment à la dynamique. Et c'est précisément ce qu'autorise aujourd'hui, et on va le voir, le principal outil d'étude du cerveau, qui est la résonance magnétique, qui, du fait de son innocuité, permet l'itération de l'image, de la mesure, et donc l'introduction de cette quatrième dimension. Le corollaire de ces propos, c'est qu'il s'ensuit l'extraction d'une multiplicité de paramètres qu'il va falloir intégrer à un moment donné dans un système d'analyse cohérent, d'où l'introduction, et Mohamed en a parlé en propos liminaire, des mathématiques, et de plus en plus souvent dans les neurosciences, car il est impossible de développer une approche formelle pour intégrer tous ces paramètres sans recourir aux mathématiques. Je disais donc que la résonance magnétique, c'est aujourd'hui l'examen incontournable pour explorer un cerveau. Vous avez ici l'exemple d'une comparaison avec un scanner, qui était encore jusqu'à il y a quelques années l'outil d'analyse premier d'un cerveau devant une pathologie, quelle qu'elle soit. Ici, un exemple de tumeur. Et vous voyez qu'il s'agit du même patient. On voit très difficilement qu'il y a un problème dans cette région du cerveau, en l'occurrence la région temporale droite. Et qu'en revanche, en IRM, on voit très bien cette lésion apparaître. Pourquoi ? Parce que la résonance magnétique exploite, on va y revenir un petit peu plus loin, une propriété fondamentale qu'ont certains atomes de pouvoir résonner. Et ça tombe bien, puisque la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique concerne en fait la résonance magnétique des protons, qui, comme vous le savez, sont le constituant le plus naturel, d'abondance naturelle le plus grand dans le corps humain, spécialement dans le cerveau, puisque c'est commun aux lipides et à l'eau, qui sont les deux molécules les plus importantes de notre système nerveux. Alors, il faut toujours avoir conscience dans le reste du topo qui va suivre, et j'espère bien au-delà de ce topo, que chaque analyse, en fait, chaque anomalie qui va être visualisée par les radiologues sur les images ou sur les différentes séquences, cache en fait un phénomène métabolique. Et l'hypersignal ici traduit en fait des phénomènes œdémateux, c'est-à-dire des troubles de la répartition, de la compartimentation de l'eau dans le cerveau. Le tenseur de diffusion, qu'on verra un petit peu plus loin avec des images assez spectaculaires, c'est également et encore la diffusion des molécules d'eau de façon différentielle dans les directions de l'espace, c'est-à-dire une diffusion anisotrope. L'effet Bold qui permet la fameuse imagerie fonctionnelle dont vous avez tous vu des images, ne serait-ce qu'à la télévision, traduit en fait la consommation locale d'oxygène. La spectroscopie qu'on va voir un petit peu plus longuement, c'est la résonance particulière de certaines molécules et de concentration qui permet d'extrapoler les concentrations de certains métabolites dans le cerveau. Et la perfusion, c'est aussi l'extrapolation donc, du volume sanguin cérébral local. Donc on voit bien ici qu'on a un panel complet, pas complet bien sûr, mais un panel très large de métabolites et donc d'informations très précieuses sur le métabolisme cérébral. Alors, un examen par résonance magnétique, aujourd'hui, c'est une véritable boîte à outils dont on peut successivement tirer des informations à la fois anatomiques, morphologiques. On ne laisse pas sur le bord du chemin notre bonne vieille tradition anatomiste, mais aussi la possibilité d'acquérir successivement un grand nombre d'informations à la fois fonctionnelles et métaboliques. Ici, vous avez la spectroscopie. La perfusion, avec ici une tumeur qui est hyperperfusée. Donc, on va pouvoir quantifier ce degré d'hyperperfusion. Ça va pas être sans conséquence sur l'analyse qu'on en fera plus tard. Le tenseur de diffusion qui permet, en fait, de mettre en évidence le réseau de câblage qui interconnecte toutes les aires du cerveau et qui donne au cerveau sa formidable puissance dynamique et fonctionnelle, justement. Et puis, l'imagerie d'activation corticale qui va permettre d'allumer de façon schématique, avec un codage couleur, les zones du cortex qui vont être impliquées dans certaines tâches. Ça va des tâches les plus élémentaires, motrices, aux tâches verbales, déjà beaucoup plus complexes, ou à certaines tâches idéatoires, encore plus élaborées. Et puis, la spectroscopie, donc, je le disais, qui permet d'extrapoler un certain nombre d'informations sur des métabolites très particuliers, et propre au cerveau. Alors, un petit peu d'histoire des sciences. La résonance magnétique, ça a été découvert il y a très peu de temps, en 1945, c'est-à-dire en même temps que la guerre froide par les physiciens russes et américains. Ils ne s'intéressaient pas qu'à la bombe atomique. Et il a fallu attendre 1973 pour obtenir simultanément, avec Paul Lauterbur, la première image proton du cerveau et la première spectroscopie localisée, ce qui a permis d'appeler... avec beaucoup d'humour, la RMN, la zoogmatographie, c'est-à-dire que Paul Lauterbur voulait dire par là que la RMN était un véritable lien entre deux approches conceptuelles déjà très différentes du cerveau, le métabolisme avec la spectroscopie et les images, c'est-à-dire l'anatomie, avec l'imagerie proprement dite. Et il a fallu attendre 1983 et même 86 pour en avoir à peu près dans toutes les villes de France, avoir un imageur RMN qui permettent donc de dégager des images. Donc une histoire relativement récente. Il faut bien avoir présent à l'esprit que effectivement la résonance magnétique, c'est deux chemins d'approche très différents. La spectroscopie, qui peut être déclinée d'ailleurs sur des systèmes non biologiques, et c'est en fait par là qu'elle est la plus connue. On fait beaucoup d'analyses ex vivo avec ce système-là. Il y a de nombreuses applications. Et puis l'imagerie proprement dite, donc, qui permet de retranscrire l'anatomie. Alors, pourquoi, en fait, la spectroscopie, bien que née en même temps que l'imagerie, a mis très très longtemps à s'imposer comme un système maintenant incontournable d'exploration du cerveau in vivo. Je rappelle que c'est son grand avantage par rapport à toutes les méthodes exploratoires autrement, c'est de pouvoir voir le cerveau, au plan métabolique, j'entends, in vivo, en direct, avec une résolution temporelle qui reste relativement médiocre, mais qui est quand même très, très précieux et qui est un véritable bond technologique dans la possibilité, et un bond heuristique aussi, dans la possibilité d'exploration du cerveau. Alors, évidemment, c'était une technique qui était à la traîne pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que le métabolisme, c'est une affaire qui a vraiment suscité l'engouement ces 15 dernières années, bien qu'on verra un peu plus loin, le cycle de Krebs, qui vous est certainement pas inconnu, remonte quand même à 1937, pour ceux qui sont un peu férus d'histoire de science. Mais c'est vrai que les connaissances dans le métabolisme cérébral sont relativement récentes. Et puis, il a fallu quand même attendre des progrès techniques pour optimiser les séquences et les rendre compatibles avec un examen clinique. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on n'est pas dans un laboratoire et que les patients qui sont dans les machines subissent un examen dans des conditions déjà stressantes, puisqu'ils sont déjà porteurs d'une pathologie, et qu'au-delà de 30 minutes à une heure, ça devient proprement intolérable. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la spectroscopie, il faut comprendre ce qu'est un déplacement chimique. Et un déplacement chimique, en fait, procède d'un postulat très, très simple dans son énoncé, c'est que tout proton résonne à une fréquence qui lui est propre, hein, avec la fameuse condition de résonance qui est donnée par l'équation de Larmor, hein, pour ceux qui sont familiers de la physique, et notamment de la physique de l'RMN. Et en fait, cette condition, elle est réalisée par son environnement électronique. C'est facile intuitivement de concevoir qu'une molécule, finalement, chaque molécule a un environnement électronique qui lui est propre. Elle a donc une fréquence de résonance qui lui est propre. Et c'est pour cela que l'on va pouvoir les individualiser, ces molécules, les unes par rapport aux autres. Parce que forcément, si elles avaient toutes la même conformation, elles co-résonneraient ensemble et on ne pourrait pas les discriminer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pose le problème, évidemment, de l'échelle. Hein, on range les métabolites les uns à côté des autres. Et on obtient, en fait, un spectre de raies avec des fréquences de résonance différentes. Alors, premier détail pratique, la spectroscopie, c'est lié à l'histoire, en fait, de la spectroscopie qui a été utilisée pour la première fois dans des systèmes cristallins. Et à l'époque, ils avaient décidé, en fait, de faire comme pour l'arabe et l'hébreu, c'est-à-dire de lire la spectroscopie de droite à gauche. Voilà, ça, c'est un petit détail historique, mais il faut pas l'oublier. Et donc, on lit, en fait, on lit un spectre en partant de la droite, le zéro est à droite, et c'est la quantification du déplacement qui va permettre d'identifier les différents métabolites. On connaît par avance la fréquence de résonance. Alors, pour obtenir, en fait, un spectre, et là, je vais faire une petite incise encore dans l'histoire des sciences, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qui est Fourier ? C'est un grand monsieur, Fourier, quand même, hein, qui a laissé son nom dans l'histoire des sciences. Bon, on va y revenir. Pour obtenir un spectre de raies, il faut extraire, en fait, les fréquences composites d'un signal temporel. Ça, jusque-là, tout va bien. Et le signal temporel, c'est ce qui est reçu par l'antenne RMN. Il faut en extraire l'information composite, donc, et cette extraction est permise par une opération mathématique, par un opérateur mathématique qui est en fait une fonction à variable complexe, qui s'appelle la transformée de Fourier. Monsieur Fourier, c'est un monsieur qui vivait en 1798, c'est-à-dire il y a 200 ans. Et pour l'anecdote, c'est un mathématicien qui a accompagné Bonaparte en Égypte, pour bien fixer pour les plus jeunes. Et c'est grâce à ce monsieur qu'aujourd'hui, on peut faire des images numériques. Toutes les opérations qui procèdent, l'opération centrale qui procède à la constitution d'une image numérique, après, à partir d'un système d'information de signal, en fait, toutes les transformations qui en ont découlé découlent de l'opération de Fourier. De la transformation de Fourier. Donc c'est grâce à ce monsieur qui vivait il y a 200 ans qu'on fait des images numériques aujourd'hui qui inondent votre vie. Ça mérite une petite réflexion. Et une fois donc que l'on a extrait cette information, on a un très beau spectre. Dernière analogie pour bien fixer, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce type d'information scientifique, la plus belle analogie qu'on puisse faire, c'est le musicien professionnel qui écoute une mélodie et qui vous place les notes, qui vous dit à tel endroit, il y a telle note. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs avoir l'oreille de Fourier à ce moment-là. Une fois qu'on a obtenu ça, on obtient donc différents spectres. Alors, à chaque noyau, son spectre. Et on a la chance, à Poitiers, de disposer d'un imageur par résonance magnétique, celui qu'on utilise pour faire de la recherche, qui permet d'extraire des informations de différents noyaux. Pour l'instant, le proton et le phosphore, et demain, le sodium, hein, quand on aura l'antenne supplémentaire. Voilà. Et ça donne déjà un grand nombre d'informations. Donc, si on revient au proton, on a une information absolument capital, c'est cette raie de résonance qui est le N-acétylaspartate, qui est un acide aminé, qui n'a l'air de rien, mais c'est un marqueur fondamental de la viabilité neuroaxonale. En d'autres termes, quand il baisse, ça témoigne d'une souffrance, voire d'une mort neuronale. Donc on a en direct, in vivo, en live, la souffrance du cerveau sur le volume que l'on va explorer à l'aide de cette spectroscopie. On a aussi accès à une information capitale, on va le voir un petit peu plus loin sur le site de Krebs, c'est la quantification éventuelle des lactates. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le lactate ? Déjà, une question simple, est-ce un acide ou une base ? Pardon ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent se lancer ? Vous avez une chance sur deux, de toute façon. Hein. Donc le lactate, c'est la base conjuguée d'un acide faible, l'acide lactique. Hein. Mais souvent, on fait l'erreur, une petite erreur. En fait, le lactate est une base. D'accord ? Mais c'est une information capitale dans le cerveau, car comme vous le savez, c'est un métabolite d'échange entre les astrocytes et les neurones. Et en fait, on a découvert ces dernières années que le lactate n'était rien d'autre qu'un fuel pour les neurones qui était fourni par les astrocytes. Donc, c'est autour du concept qui a été publié par Pellerin et Magistretti de la navette lactate neuroastrocytaire. Donc, c'est un élément fondamental de compréhension du métabolisme cérébral. Et ça, c'est accessible in vivo, en direct, avec la spectroscopie. Et puis, la spectroscopie du phosphore permet d'avoir accès, comme vous le voyez ici, aux résonances et donc à la quantification, à l'identification et à la quantification de l'ATP, rien moins, la phosphocréatine, les phosphates inorganiques, qui, comme vous le savez, à l'aide de cette formule semi-logarithmique, permettent d'extraire le pH intracellulaire, dans sa composante intracellulaire, sa participation intracellulaire, puisque les phosphates inorganiques sont propres à son topographie exclusivement intracellulaire. Et puis, on a aussi accès aux résonances des phosphoesters, qui sont des marqueurs du turnover membranaire. Donc, déjà, une approche, fût-elle un peu grossière, mais quand même très riche déjà, du métabolisme in vivo, je le répète et on ne le répète jamais assez. Alors, ces informations s'interprètent à l'aide de certains concepts issus donc de la biochimie et il faut se rappeler, on ne peut pas ne pas se rappeler que le cycle de Krebs ça a déjà quand même un certain nombre d'années puisque ça remonte aux années 30. Comme quoi les informations, les avancées conceptuelles, scientifiques, précèdent de beaucoup les avancées technologiques souvent. Elles les supportent en général d'ailleurs. Elles sont leur moteur initial. Et on a dans ce cycle de Krebs certaines réactions d'échappement, donc à ce niveau-là, avec une production à ce moment-là de lactate. Et on a dit que le lactate était un métabolite absolument capital dans l'exploration de la pathologie cérébrale humaine. Pour finir avec les séquences dites métaboliques, l'imagerie de perfusion, et vous voyez qu'encore là, les mathématiques vont venir à notre secours. C'est grâce à ces fonctions gamma dont on calcule l'air sur la courbe avec un ratio qui permet de calculer de façon assez fiable le volume sanguin cérébral dans une région du cerveau. Et donc d'avoir une idée de l'hyper ou de la sous-perfusion du cerveau dans une de ces régions. Ce qui permet là encore, d'avoir une donnée numérique supplémentaire. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Finalement, on va intégrer ces mesures. Le premier niveau d'intégration va consister à colliger toutes ces informations sur une sorte de fiche paramétrique pour un patient. Ces données peuvent être moulinées dans des modèles. Ici, c'est un modèle qu'on a publié sur les tumeurs, particulière du cerveau qui s'appelle les gliomes et dans leur variante dite de bas grade qui pose un certain nombre de problèmes intellectuellement très intéressants au demeurant et qui permettent d'aller assez loin dans la compréhension du métabolisme cérébral. Et vous voyez que finalement, en mettant les briques les unes sur les autres, on finit par les intégrer à des modèles qui permettent, comme tous les modèles, c'est sous-tendu par un certain nombre d'équations différentielles. C'est juste pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de travaux derrière, mais le résultat, c'est qu'on va pouvoir, si on revient à la fiche paramétrique du patient, dire en direct, au moment du staff qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, qui réunit autour d'une problématique pathologique spécifique, en l'occurrence les tumeurs, le neuroradiologue, l'anatomopathologiste, le biologiste moléculaire, le neurochirurgien, le neuro-oncologue, le radiothérapeute. Et tous ces gens-là vont avoir besoin, pour prendre une décision, d'un certain nombre de paramètres. Et ces fiches paramétriques, même s'ils n'ont pas besoin d'entrer dans le détail, vont leur permettre, par les informations prédictives, pronostiques, qu'elles permettent d'établir, de prendre une décision, changer un traitement, changer de ligne thérapeutique, ou au contraire, observer une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire interrompre momentanément la thérapeutique. Alors, et la morphologie dans tout ça? On peut se poser la question après, parce que je vous ai dit au début qu'on partait de l'anatomie, qu'on n'a, encore une fois, pas laissé complètement sur le bord du chemin. Et la principale information anatomique, morphologique, que l'on va retirer sur une tumeur, qu'on va chercher à exploiter, c'est le volume. Mais déjà, le volume, on sait par les travaux de Lebeg, il y a déjà longtemps, et plus récemment revisité par Gottendieck, qui est un de nos nombreuses médailles Fields, encore vivant d'ailleurs, c'est un monsieur qui a 86 ans, je crois, aujourd'hui. On sait déjà que conceptuellement, le volume est une notion très, très difficile à préciser, et il faut des logiciels assez évolués pour exploiter le volume sans faire des approximations grossières. Je pense notamment à l'approximation la plus triviale d'un volume tumoral, c'est la sphéroïde. Et en fait, c'est complètement faux, on le sait par les différentes mesures que l'on a faites. Et donc, ça pose déjà le problème d'une approche conceptuelle, le volume. Et pourtant, c'est étudié depuis très très longtemps. Et on sait aussi que le volume est sous-tendu par les modifications du métabolisme. Une tumeur, avant de grossir, ça évolue au plan métabolique. Et ça, c'est une information très importante, et ça nécessite d'intégrer les informations en amont de la modification de la morphologie. C'est comme ça, et à ce prix seulement, qu'on pourra anticiper l'évolution d'une pathologie. Ici, encore une fois, l'exemple paradigmatique d'une tumeur. C'est à ce prix seulement qu'on pourra espérer anticiper et donc adapter, cibler des thérapeutiques efficaces. On sait aussi que se cantonner à l'analyse du volume, c'est très bien, ça dégage même des arguments prédictifs de l'évolution, mais on sait aussi que ça prend beaucoup de temps. Ici, il y a 3 ans entre la première et la dernière image. Alors c'est sûr que si vous prenez la première et la dernière, on voit que ça a évolué et que ça a grossi. Mais déjà, entre la première et la deuxième, c'est plus délicat. Entre la deuxième et la troisième, c'est franchement difficile à l'œil nu. Et si on ne fait pas une volumétrie par segmentation, avec une sommation spatiale, c'est déjà très difficile. Mais comme je le disais il y a quelques secondes, ça dégage quand même des... On sait par exemple par des études que quand on réduit un volume, on fait gagner en moyenne une demi-douzaine d'années au titulaire de la lésion quant à la réévolution. C'est-à-dire que ça met 6 ans à réévoluer. Et donc, on a donné 6 ans de vie supplémentaire. Ça, c'est des études scientifiques, les premières études scientifiques sur les tumeurs qui ont montré qu'effectivement, même l'approche, fut-elle grossière par la volumétrie, pouvait quand même dégager des arguments importants. Mais je disais à l'instant que l'évolution du volume est sous-tendue par l'évolution du métabolisme. Et ici, vous avez un extrait d'une étude qui a montré ça de façon objective, factuelle, scientifique. Ici, vous avez la courbe d'évolution en jaune, qui est la courbe d'évolution volumétrique sur 14 mois, et la courbe d'évolution des métabolites, des ratios de métabolites, par rapport colline sur NAA ou colline sur créatine. Et de prime abord, l'inspection visuelle de ces courbes montre que, d'abord, les choses évoluent dans le même sens, ce qui est plutôt rassurant, mais surtout que les métabolites évoluent de façon beaucoup plus ample, avec une amplitude beaucoup plus marquée et beaucoup plus visible, en fait, identifiable, que la courbe du volume. Et concrètement, ça donne quoi? Quand on fait une détermination à un instant T, entre deux points de mesure, pardon, on a un facteur 10 de différence sur le pourcentage d'évolution. Et 3,5%, là, je vous demande de me faire confiance, 3,5% de variation en volume, ce n'est pas facile à voir. Il faut vraiment regarder de très près. Et ça prend énormément de temps. Alors que la spectroscopie, qui prend un petit peu de temps, ne nécessite qu'une fraction de seconde d'analyse pour objectiver qu'il y a 24% de décroissance du ratio Et donc la tumeur est en train de répondre à la chimiothérapie, puisque c'est un monitoring de chimiothérapie. Même chose à la réévolution. Et là, on a une information supplémentaire qui est capitale, c'est que l'inflexion de la courbe, des courbes, précède d'un mois, deux mois, pour les métabolites, celle du volume. Autrement dit, on va pouvoir identifier une réévolution lésionnelle un mois à deux mois plus tôt en utilisant l'outil métabolique que l'outil purement morphologique. C'est toujours ça de gagner. Avec un même delta d'un facteur 10 d'évolution entre les deux, entre les deux méthodes de mesure. Plus loin encore, en faisant une analyse biostatistique appropriée, on peut, et en étudiant les décroissances moyennes relatives des courbes entre elles, on peut prédire la réponse ou l'échappement. C'est-à-dire qu'au quatrième mois, vous faites une mesure tous les mois, et puis au quatrième mois, vous pouvez faire votre petit calcul et dire aux collègues, votre patient, dans 14 mois, il sera encore répondeur ou il aura échappé à la tumeur. Ce qui est capital pour les collègues chargés de prendre en charge le patient. L'analyse de la fonctionnalité, je parlais de l'imagerie du faisceau de câblage, du réseau du faisceau de câblage qui interconnecte toutes les aires du cerveau entre elles. On exploite en fait deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est la propriété qu'ont les molécules d'eau de diffuser de façon préférentielle dans certaines directions de l'espace, en l'occurrence dans le cerveau, le long des faisceaux de fibres, comme par hasard. Les faisceaux de fibres sont chemisés par des colonnes d'eau qui diffusent à un certain coefficient. Partout ailleurs dans le cerveau, la diffusion est plus isotrope. Et donc c'est cette anisotropie, ce différentiel entre de la diffusion d'eau autour des faisceaux de fibres et par rapport au reste du cerveau, qui va permettre d'exploiter, à l'aide d'un algorithme qui est sous-tendu, là encore, pardon de convoquer encore les mathématiques, mais c'est Hamilton, 19e siècle, qui a décrit le tenseur, qui est un outil mathématique très puissant. Le tenseur permet d'analyser ces informations de façon extrêmement puissante pour reconstruire indirectement ces faisceaux de fibres. Et ça donne des informations visuelles qui sont très spectaculaires. Alors, il faut que je le... Et on va pouvoir, en même temps, au cours d'une acquisition, visualiser avec un delta temporel de quelques minutes à peine la reconstruction. Le malade est dans la machine. Et vous avez une reconstruction pseudo-tridimensionnelle des différents faisceaux de fibres. Alors, bien sûr, on peut les découper, identifier certains faisceaux par rapport à d'autres, etc. Et pour le neurochirurgien, vous voyez ici que c'est déjà passé. Vous avez le processus tumoral avec une amputation des faisceaux de fibres. Et le neurochirurgien, lui, va pouvoir visualiser ces fibres et leur disparition. Alors, il y a une petite limite quand même. C'est que la fiabilité de ce type de séquence... elle est limitée par la disparition de la colonne d'eau. C'est-à-dire que le processus tumoral, quand il arrive au voisinage des fibres, il va amputer la colonne d'eau, et donc la fibre ne va plus être reconstruite, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, et encore moins qu'elle n'est plus fonctionnelle. C'est pour ça qu'on a la possibilité, et à Poitiers, on a cette chance-là, de faire de la chirurgie dite éveillée. C'est-à-dire que le patient est endormi une première fois, on ouvre la boîte crânienne, on expose le cerveau et le processus tumoral, on implémente les électrodes autour, et on réveille le patient et on lui demande de faire quelques tâches. Et on voit, le patient est son propre témoin. Et on stimule les différentes aires autour. Dans quel but? Parce que tout ça a un but, évidemment. C'est très lourd, ça implique beaucoup de gens. C'est épuisant pour le patient aussi. Le but, en fait, n'est autre que de faire une résection maximale de la lésion au-delà des limites visibles en imagerie. On essaye d'aller encore plus loin que les limites de l'imagerie. Pourquoi ? Parce qu'on a montré que dans ce cas-là, on donnait de la survie, on maximisait la survie du patient. Et comme ces tumeurs, je ne l'ai pas dit dans mon propos, ont la fâcheuse habitude de frapper des gens très jeunes, des gens à peine plus âgés que vous. Et il y a un impact énorme sur la survie des patients. Et on essaye de maximiser cette survie. Et on sait, on l'a montré par des études scientifiques, des études de survie, qu'effectivement, il est possible de donner un maximum de survie en utilisant donc tous ces outils. Et c'est la confrontation en fait des outils de l'imagerie avec leurs limites et des outils électrophysiologiques péropératoires avec leurs limites aussi. Et la complémentarité des deux qui va permettre aux neurochirurgiens d'optimiser. Non, je ne l'ai pas arrêté. Et d'optimiser donc ce geste chirurgical. Donc vous voyez déjà que la stratégie s'alourdit de minute en minute, hein, avec l'examen. Là, on est déjà à plus d'une heure d'examen. Hein. À près d'une heure d'examen, en tout cas. Près d'une heure d'examen. Ça donne toutes sortes d'images très, très, très précieuses pour nous et surtout pour nos collègues chirurgiens, en sachant qu'effectivement, il faut aller chercher, stimuler plutôt cette région-là que d'autres qui sont manifestement parfaitement fonctionnelles. On peut aussi utiliser cet outil pour modéliser la croissance d'un gliome et en fait revenir à rétro, remonter le temps. C'est une machine à remonter le temps. Ce logiciel permet de retrouver en fait le point du cerveau où est né le gliome. Pour l'instant, ça n'a qu'un intérêt un peu anecdotique, mais on espère l'intégrer à des facteurs pronostiques en fonction de la topographie initiale de la lésion. Dernier outil, donc l'activation corticale. Et ici, vous avez une imagerie d'un gliome insulaire gauche, qui est qui implique en fait tous les centres de la parole chez un droitier. Et donc on essaye de savoir, c'est un dernier aspect que je souhaiterais souligner aujourd'hui, on voudrait savoir quel est le degré de redistribution de la fonction du langage chez un patient pour évaluer la résécabilité, la possibilité d'enlever tout ou partie de la lésion. Et dans certains cas, c'est possible, parce que le cerveau a cette propriété absolument magnifique d'être plastique. C'est-à-dire que quand vous avez un processus à développement suffisamment lent quand même, vous avez une reprise en charge d'une partie de la fonction par d'autres zones du cerveau, en général les zones hétérolatérales homonymes. Et ici, on voit qu'il y a une reprise en charge malheureusement partielle, incomplète, du langage par l'insula droite, qui est normalement totalement dépourvu de ce type de faculté, mais qui, là, est induite par le développement de ce processus morbide. D'accord ? Donc, l'imagerie fonctionnelle, qui, elle aussi, a ses limites, hein, au voisinage de la tumeur, c'est pas très fiable. Par contre, elle a la possibilité d'identifier de façon très fiable, cette fois-ci, la redistribution fonctionnelle induite par la lésion. D'accord ? Alors, que faire de toutes ces informations? Je l'ai dit déjà au début de mon topo. On vit vraiment une époque très intéressante sur le plan heuristique parce qu'on essaye de passer à la vitesse supérieure en termes d'intégration des informations pour regarder le cerveau de façon différente. Mais cela nécessite effectivement de recourir et de convoquer des experts du métabolisme, de la morphologie, des mathématiciens, des radiologues, accessoirement, et tout ça travaille au sein d'une équipe, et c'est d'ailleurs l'objet du projet d'équipe que je suis en train de monter sur Poitiers avec le soutien de Mohamed. Et c'est une aventure, je l'espère, formidable qui commence, et je vous laisse méditer sur cette phrase que mon fils n'est pas encore capable de sortir, mais qui m'est très chère, parce qu'en toute humilité, parce que je pense qu'à la lumière de toutes les informations qui nous arrivent, l'imagination joue un rôle absolument capital. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Rémi. C'était effectivement passionnant. Avant de poser des questions, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Parce que moi, si je commence à parler, j'en ai pour un moment.
Merci beaucoup. Moi, je suis neurologue. Et je travaille en psychiatrie et je suis un peu plus âgé que Rémi. Il t'a traité de jeune. C'est bien, c'est sympa.
Merci beaucoup, Mohamed.
En réalité, Rémi a une sacrée expérience parce qu'il est... Il est jeune PUPH, je crois qu'on a la chance de l'avoir, parce qu'il a fait des travaux assez extraordinaires, et donc ça avance bien dans le domaine de la neurologie. Je vais intervenir sur deux choses, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a d'abord effectivement l'histoire, et l'histoire, À Poitiers, c'est simple. J'ai commencé mon internat de neurologie. On n'avait pas de scanner. Vous voyez, je n'ai pas l'impression d'avoir une grande barbe blanche et tout ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le premier scanner, on est parlé du scanner, on n'est pas encore à l'IRM. Hein. Il est apparu en 1980 au CHU de Poitiers. Vous voyez, c'est quand même récent. La première IRM, je ne suis pas sûr que ce soit 86. Il y avait un certain nombre de centres en France. Je le mettrais plus vers la fin des années 80. Mais ça doit être dans le service de radio, ça doit être marqué quelque part. Voilà, donc Poitiers commence à avoir sa première IRM à la fin des années 80. C'est effectivement une révolution, hein, parce que quand vous avez fait de la neurologie avant le scanner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez l'artériographie et la ventriculographie gazeuse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la ventriculographie gazeuse, mais c'était horrible. Enfin, je veux dire, bon, il y avait le ponction lombaire aussi, mais enfin, dans les explorations, hein, on peut parler, c'était une exploration. Quand on dit que ça se passe facilement par la claustrophobie, la ventriculographie, c'était douloureux. C'était vraiment une épreuve insupportable pour un patient. Donc, on en était là et on avait la clinique. Hein, et la clinique reste quand même quelque chose d'important. Ça, c'est la deuxième. Donc, sur le plan historique, en peu de temps, enfin, j'espère qu'on peut considérer que c'est en peu de temps, en tout cas, c'est dans ma carrière de neurologue, on a une évolution absolument phénoménale. Hein, c'est-à-dire qu'on passe du Moyen-Âge à la fin des années 70, hein, aux années 2013 avec quelque chose et des instruments merveilleux. La deuxième chose, c'est que quand même, il ne faut pas considérer... Là, Rémi a bien fait de parler des tumeurs parce qu'on a tellement de renseignements qui sont donnés par cet examen. C'est un examen qui nous apporte aussi de plus en plus de renseignements au fur et à mesure sur des pathologies qui étaient dites normales jusque-là au scanner. Hein. Que ce soit des pathologies psychiatriques ou des pathologies neurologiques, et notamment dans les neurodégénérescences, au fur et à mesure des progrès techniques, vous aurez d'autres arguments qui vont venir pour renforcer l'hypothèse d'une maladie. Mais cette maladie, elle ne commence pas à l'entrée de l'IRM et elle ne se termine pas à la sortie de l'IRM. Il y a d'abord un processus de clinique qui doit exister, c'est-à-dire une sélection du patient, une orientation diagnostique. Et si vous demandez une orientation à partir d'un diagnostic au radiologue, il va être beaucoup plus performant que de faire toute une synthèse de tout ce qui existe. Donc la clinique reste quand même quelque chose d'important. Et à part l'IRM, vous avez tout un tas de choses, entre guillemets, d'exploration qui vous permettent d'avancer sur un diagnostic. La neuropsychologie a fait des progrès extraordinaires depuis la même époque. Hein, avec Roger Gilles à Poitiers, etc., on a fait des progrès extraordinaires. Et c'est un ensemble d'exploration qui vous permet d'avancer un diagnostic. Là, on parlait des équipes. On a une équipe qui s'appelle le CM2R, qui est un centre de mémoire. Vous allez apporter la clinique. Vous allez apporter, le neuropsychologue va apporter l'expertise de sa neuropsychologie. Le radiologue va apporter l'expertise de son IRM. Le scintigraphiste va apporter, dans les cas difficiles, la scintigraphie cérébrale HMPAO, le DAT scan pour la partie sous-corticale, le PET scan. C'est un ensemble. Et la ponction lombaire a également fait des progrès dans l'analyse de la protéine tau. Et c'est l'ensemble des données que vous allez dégager d'un patient qui va vous permettre de dire c'est finalement une maladie d'Alzheimer alors que c'était tout à fait atypique. Donc l'IRM fait partie d'un processus, elle a pris sa place, elle fait partie d'un processus d'exploration et on va lui demander de plus en plus de renseignements en dehors des choses évidentes, entre guillemets. Ce n'est pas évident sur le plan du traitement, mais c'est évident sur le plan du diagnostic. Un glioblastose, c'est un glioblastome. Après, effectivement, c'est le traitement, la prise en charge peut être différente. Mais dans les pathologies où jusque-là, les premières IRM étaient normales, je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir des arguments positifs pour aller dans le sens d'une démence, par exemple, et on ne sera plus en 1980 où on avait les démences et les pseudo-démences. Si maintenant, on doit faire un diagnostic positif d'une maladie neurologique ou d'une maladie psychiatrique, et non pas un diagnostic d'exclusion parce qu'on ne trouve rien d'autre.
Alors, les jeunes, une question ? Sinon, j'allais vers les psychoses, mais on verra ça peut-être plus tard.
Bonjour. Moi, c'était plus une question, rien à voir avec la clinique, parce que je ne comprends pas trop, mais plus pour associer à la recherche. Là, ce qu'on voit en image, c'est des centimètres, c'est des millimètres. Ce que vous voyez, est-ce qu'on peut, avec ces images, aller plus loin ? Est-ce que c'est en projet pour voir plus dans le cerveau, en fonctionnement, vers les neurones, etc., les cellules en elles-mêmes ?
Alors, actuellement, on est à l'échelle effectivement du millimètre. La résolution spatiale des images, alors, elle est inframillimétrique, mais très proche du millimètre en termes d'ordre de grandeur. Ça, c'est pour la grandeur sur les dimensions métriques. Par contre, en résolution spatiale, Les images en bold que vous avez vues là, sur l'imagerie fonctionnelle, on est à la seconde en échantillonnage. Et sur la spectroscopie, on est de l'ordre de plusieurs minutes. Donc on a une vision instantanée du métabolisme, mais à l'échelle de quelques minutes. Et c'est pour ça qu'on a imaginé d'explorer de façon itérative ce métabolisme pour obtenir une cinétique. D'accord ? Pour ce qui est des progrès envisagés, effectivement, quand on aura une IRM à très haut champ, hein, quand je dis très haut champ, on double encore la mise par rapport au champ magnétique actuel qui est de l'ordre de 3 Tesla. Quand on passera à 7, on descendra bien sûr en limite de visibilité. À 7 Tesla, on commence à voir une partie des couches corticales. C'est qu'il y a 5 couches corticales fondamentales. Et on peut commencer à voir les différences entre les différentes couches. Donc là, on commence à descendre quand même assez bas en termes de résolution. On descendra aussi, on ira encore beaucoup plus loin en termes de résolution spectrale sur la spectroscopie. Et donc, sans pour autant gagner énormément en termes de résolution temporelle. Donc ça, c'est un obstacle majeur de la résonance magnétique. Hein. C'est plus que d'ailleurs sa limite de résolution spatiale, c'est sa limite de résolution temporelle. En dessous de la seconde, on n'est pas bon en résonance magnétique.
Et justement, pour venir sur la résolution temporelle, donc là, tu nous as montré tout de même des glioblastomes qui sont de la taille d'une balle de tennis, sinon d'une orange. Et qu'en est-il de pathologies psychiatriques, telles que par exemple la psychose en IRM fonctionnelle? Est-ce qu'on est capable de voir une crise psychotique en direct? Est-ce qu'on est capable de visualiser ça? Et juste pour aller jusque la question journalistique de vulgarisation. Ce matin, on a vu l'épiphyse, la glande pinéale étant au centre du cerveau. Et quand on posait la question, le siège de l'esprit ou le siège de l'âme, on était à l'époque, bien entendu, incapable d'aller jusque-là. Est-ce qu'en IRM fonctionnel, on est capable de mettre le doigt sur des notions telles que la conscience? Et je pose la question parce que je sais qu'il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, notamment avec des moines tibétains.
Alors,
est-ce que tu vois ma question? La question, c'est est-ce qu'on est capable de voir un dysfonctionnement physiologique ou pathologique du cerveau en direct?
Alors, la réponse est oui. On peut voir, effectivement, comme tu sais, dans certaines maladies psychiatriques, on met en évidence des anomalies de distribution de certains métabolites, notamment le glutamate qui s'hyperconcentre et d'autres encore qui peuvent être altérés. Et ceci, bien sûr, sur des images complètement normales. C'est un point peut-être sur lequel j'ai insuffisamment insisté. La spectroscopie peut être complètement pathologique sur des images complètement normales. Donc on va beaucoup plus loin en termes de sensibilité. Hein, et même si on est limité en résolution temporelle, on va beaucoup plus loin en termes de sensibilité au processus métabolique. Donc oui, pour la première partie de la question. Pour l'imagerie de la conscience, on est obligé de recourir pour des raisons de résolution temporelle essentiellement à des outils complémentaires. Et notamment, je pense à la MEG, la magnétoencéphalographie, qui permet, avec une résolution temporelle beaucoup plus fine que l'IRM, de mettre en évidence l'onde de dépolarisation du cerveau, de la conscience, de l'éveil d'un cerveau. Ça, on sait le mettre en évidence. On parlait l'autre jour avec Gérard de notre collègue Lionel Nakache, qui effectivement travaille beaucoup là-dessus. Mais pour répondre à ta question, l'IRM elle-même ne permettra, par le truchement de l'imagerie fonctionnelle d'activation corticale, de mettre en évidence des processus mentaux complexes, élaborés. On va de plus en plus loin dans les tests neuropsychologiques, et à Poitiers, là encore, sans faire d'auto-satisfaction, on a une école de neuropsychologie qui est particulièrement brillante. Et on est probablement le seul centre du monde dans lequel les bilans neuropsychologiques de tumeur avoisinent les 48 heures, ce qui est énorme pour un bilan neuropsycho. Et on essaye de traduire certaines de ces épreuves en imagerie fonctionnelle avec des paradigmes pour aller effectivement assez loin dans l'investigation des zones du cerveau qui sont impliquées dans ces processus. Donc plus on complexifie, plus on approche en fait l'activité intellectuelle, la partie noble de l'activité du cerveau humain, donc autour des activités intellectuelles particulièrement poussées.
Merci beaucoup, Rémi. Donc là, on a un très bel exemple avec le dernier orateur qui est Michel Ezengrini, d'une approche qu'on appelle dans notre jargon bottom-up. Donc on a commencé avec Martin Giroffoy à explorer les molécules, les réseaux. Là, on a pris un peu plus de distance en regardant le cerveau et son fonctionnement et les pathologies associées. Et là, avec Michel Ezengrini, on va prendre encore plus de distance pour regarder cette fois-ci de manière fonctionnelle les conséquences, comment le cerveau s'adapte à son environnement et comment le cerveau s'adapte à, non pas une pathologie, parce que le vieillissement n'en est pas une, mais à l'évolution inéluctable de nous tous. Voilà. Ah, il y a une pause. Après la pause. Voilà. Merci. Merci.